Vous le savez, nous sommes le 27 janvier et c'est la date anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, 80 ans tout juste. Et donc aujourd'hui, on parle des enjeux politiques de cette commémoration et on fait un bond dans le temps pour évoquer les réactions mondiales à l'époque de cette même libération grâce à Daniel Habert qui est bien sûr au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous en ce lundi matin dans cette matinale spéciale que nous consacrons et nous commençons avec vous. Cette matinale spéciale consacrée aux commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Et aujourd'hui, avec vous, dans ces conversations un peu particulières, on va parler de l'impact géopolitique de cette commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Quel est-il?
D'abord, cette année, ça prend un relief particulier puisqu'on vient de, Israël vient de s'engager vers la fin d'une longue guerre de 15 mois, avec un 7 octobre qui a été un rappel de la vulnérabilité des Juifs et c'était un rappel des pogroms et de la Shoah. Donc, c'est un relief particulier. Et évidemment, on attend de cette commémoration, un effet géopolitique, notamment vis-à-vis du reste du monde, pour l'inviter à mieux comprendre les motivations d'Israël, le fait qu'il soit un peu isolé dans le monde et comme il l'a été au moment de la Shoah. Et je dois dire que malheureusement, quand on réfléchit à cet impact géopolitique pour le reste du monde, on doit être assez pessimiste sur l'impact réel parce qu'il y a quatre raisons qui font que le reste du monde est rétif à partager avec les Juifs la commémoration de la Shoah. La première, c'est que tout le monde, arabo-musulman, c'est-à-dire presque un quart du monde, estime que la Shoah, Auschwitz, tout ça, c'est un problème européen qui ne les concerne pas et ne voit pas pourquoi ils paieraient le prix d'une monstruosité européenne. Et puis plus largement, tout ce Sud global a entamé une sorte de concurrence mémorielle vis-à-vis de la Shoah en disant mais la Shoah n'est pas le seul crime contre l'humanité massif qui a été commis et nous qui avons un ressentiment anti-occidental hein, le Sud global nous mettons en avant d'autres crimes contre l'humanité comme la traite des Noirs et comme la colonisation et au fond les guerres de décolonisation qui ont encore aggravé un petit peu la situation. Ça c'est la deuxième raison de pessimisme. La troisième c'est que au moment de la guerre que Israël vient de mener, on a vu cette vague de désinformation qui a inversé de façon scandaleuse la situation en faisant du Palestinien le juif d'aujourd'hui et en faisant des Israéliens les nouveaux génocideurs. Donc c'est effrayant, mais ça a fonctionné en partie. Et puis j'ajouterai un dernier élément, c'est l'oubli. Les jeunes générations aujourd'hui ont d'autres préoccupations. Il y a l'écologie, il y a ce grand mouvement wokiste auquel on espère mettre fin, mais qui est toujours là. Il y a tout ce qui est Internet, l'intelligence artificielle, le cyber. Donc les jeunes sont passés à autre chose et je me souviens d'un livre qui s'appelait « Hitler connaît pas », où on avait interrogé des jeunes occidentaux et la réponse avait été évidemment catastrophique, ils n'étaient pas au courant, quoi. Donc voilà un peu pourquoi on est un peu pessimiste. Ce qui rend un tout petit peu plus optimiste, c'est que au moins les responsables, les chefs d'État d'un certain nombre de pays, notamment occidentaux, d'ailleurs des pays dans lesquels la Shoah est arrivée, qui ont vécu la Shoah premièrement, eux considèrent souvent que la Shoah et donc la commémoration d'Auschwitz, ça fait partie de la pierre angulaire de leur politique étrangère. Je me souviens des livres de mémoire d'Angela Merkel qui disait c'est la bouée, la boussole de la politique étrangère allemande, c'est la Shoah. Et ça dicte notre politique internationale. Et c'est vrai aussi d'autres pays comme la Hongrie ou la République tchèque. Et je me souviens même de la Grande-Bretagne où le prince Charles était venu à Jérusalem. Je crois que c'était le 75e anniversaire et avait prononcé un discours très très émouvant. Donc voilà.
Le
Ces
prince
pays-là
Charles qui
sont
sera
conscients.
le prince Charles pardon qui sera présent hein, à Auschwitz pour
Et oui,
cette
maintenant c'est le roi, maintenant c'est le roi.
le oui le roi maintenant oui
Et puis
et
on...
Auschwitz se trouve en Pologne. La Pologne dans tout ça, comment fait-elle son devoir de mémoire?
C'est un peu pareil, si vous voulez, si vous vous souvenez du film de Claude Lanzmann, on voit bien que les Polonais, le Polonais de base, lui, fait semblant d'ignorer, et je pense que ça continue. Par contre, les dirigeants polonais font partie de ces hommes d'État responsables qui n'oublient pas leurs responsabilités, qui sont des soutiens d'Israël. Voilà. Mais inversement, moi, je dirais que s'il y avait une raison géopolitique de se remémorer de la Shoah et Auschwitz, c'est pour les Juifs eux-mêmes. Parce qu'on vient de vivre un moment terrible toute l'année 2023, enfin 2024, où tout à coup, à nouveau, la vulnérabilité de ce petit peuple, moins de 15 millions d'habitants, moins de 7 millions en Israël, les autres dispersés, vulnérabilité malgré la puissance de l'armée, on est à la merci. Et donc, obligation de mémoire, elle joue dans deux directions. Elle joue d'abord chez les juifs de la diaspora. Il faut quand même observer que pendant les manifestations anti-israéliennes, notamment dans les campus, il y avait pas mal de jeunes juifs qui s'étaient joints au mouvement wokiste anti-israélien. Il y a des jeunes juifs qui, par incompréhension, ignorance et idéalisme, croient qu'il faut. Et puis vous avez des mouvements, des associations de juifs qui disent pas en mon nom. Je suis pas d'accord avec cette politique de soutien à Israël. Je vois beaucoup plus large, etc. Mais au bout du compte, finalement, c'est surtout pour Israël que c'est important de se souvenir. Et au fond, cette commémoration, elle a deux facettes importantes. La première, c'est de montrer que les soldats israéliens qui tombent chaque jour à Gaza et ailleurs ne tombent pas pour rien. Ils tombent pour sauver ce pays qui est la seule réponse constructive à la Shoah. Et au fond, l'idée de cette extrême vulnérabilité qu'a montré la Shoah, c'est que le peuple juif, s'il veut survivre, doit d'abord compter sur lui-même. Et donc, cette guerre qu'a Israël a menée pratiquement seule contre sept ennemis à la fois est la preuve que le souvenir d'Auschwitz est toujours là pour encourager cette résilience du peuple juif, quel que soit le prix à payer. Et on paye des prix très élevés aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre choix.
Justement, cette résilience du peuple juif, ces commémorations, et d'autant plus celle-ci qui est marquante car c'est un chiffre 80, c'est justement pour montrer cette résilience du peuple juif. C'est à ça que ça sert.
Oui, c'est montrer que si on ne se défend pas nous-mêmes, personne viendra à notre secours. Quand on a délivré le camp d'Auschwitz, c'était trop tard. C'était après que ce soit commis. Et on se souvient des pressions qui avaient été faites sur Roosevelt pour qu'il bombarde les voies ferrées, etc., et qui disait on verra ça après. Et donc oui, les Juifs, ils veulent vivre, ils ne veulent pas qu'on les plaigne, ils ne veulent pas être des victimes. Et donc pour ne pas être des victimes, il faut se prendre en charge, payer le prix qu'il faut, mais rester indépendant. Et ça renforce encore l'envie du peuple juif de compter sur lui-même avant tout.
Pour terminer, vous évoquez justement Roosevelt et ses décisions. Comment s'est vécue à l'époque la libération du camp?
Moi, je crois que c'est d'abord les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il a fallu attendre les reportages. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu une prise de conscience immédiate. On sait qu'il a fallu attendre beaucoup d'années après 1945 pour que tout d'un coup Auschwitz, la mécanique de mort, la Shoah apparaissent. Donc ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a l'information immédiate et donc on n'a plus ce recul du temps. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la concurrence mémorielle joue, parce qu'il y a tous les jours des malheurs dans le monde et donc chaque malheur vient remplacer le précédent et plonger les malheurs dans l'oubli au profit aujourd'hui l'Ukraine est en concurrence d'information avec le Moyen-Orient. On le voit bien, Zelensky à un moment donné a dit dit on aide davantage, les Américains aident davantage Israël qu'elle aide l'Ukraine. Vous voyez, ce genre de concurrence, elle reste très forte et c'est un des grands problèmes. Et qui montre qu'il faut continuer à se souvenir et à faire ce genre de manifestations. Elles sont indispensables, même si, comme je l'ai dit au début, elles n'atteignent pas toujours 100% de leurs objectifs et il faut quand même le faire.
Ouais, eh bien, Daniel Habert, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ces conversations un peu spéciales consacrées aux 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles conversations plus classiques.
À la semaine prochaine.